Vous écoutez la seule et unique radio consacrée aux ovnis, aux phénomènes paranormaux, aux complots d'État, aux manipulations gouvernementales, aux sociétés secrètes, aux mystères des pyramides, aux scandales alimentaires, aux médicales. BTLV, 24 heures sur 24, sans pub.
Salut à tous, je suis très heureux de vous savoir encore et toujours plus nombreux à l'écoute de la seule radio libre de France et d'Europe. Liberté, car sur BTLV, c'est 24 heures sur 24 sans pub. Privilège que je dois à vos abonnements, mais qui vous apporte un contenu rare, voire inédit dans un paysage médiatique aseptisé dont le maître mot est pensée unique. Sur BTLV, c'est tout le contraire. Voilà pourquoi si vous m'écoutez une fois, vous m'écouterez mille fois.
Pour souscrire à l'offre 1 an BTLV et avoir un accès illimité à toutes les émissions et leurs podcasts, cliquez sur l'onglet Abo Web Radio sur web-toutelavérité.fr.
Vous connaissez ma devise, j'expose et vous disposez. Et on commence avec l'école Jedi. Et pour cela, direction le Québec, afin d'y retrouver Richard Glenn. Salut Richard.
Oui, bonjour Bob.
Comment ça va?
Ça va très bien, toi?
Moi, je suis ravi à chaque fois que je te parle. C'est un vrai bonheur parce que c'est un moment d'exotisme. Déjà, ton accent est pour moi un moment d'exotisme, tu le sais. Ça me rappelle les belles heures et les belles journées que nous avons passées au mois de mai dernier lorsqu'il y avait le congrès UFO 401 où on a passé un vrai, vrai bon moment. Alors, cette année, je t'ai demandé de venir une fois par mois nous parler d'un sujet qui te tient à cœur. Tu es devenu un des chroniqueurs attitrés de BTLV, j'en suis ravi. On rappelle que toi, tu es animateur, concepteur, producteur de l'émission Ésotérisme expérimental, que nous sommes frères de site, frères de cœur et frères d'idées, hein, parce qu'on a beaucoup d'idées en commun, et surtout frères de quête de vérité. Alors, l'école
Jedi... Et on est mu par la même énergie, j'allais dire, on est mu par la même force, et la force est avec nous.
Exactement. Alors,
ben oui.
L'école Jedi, ce soir, c'est ce que tu voulais... Je sais que tu l'abordes depuis très longtemps, c'est quelque chose que tu fais depuis à peu près une année, hein, c'est ça, sur via le site Ésotérisme expérimental, si j'ai bien tout suivi.
Ah non, ça fait 10 ans. D'ailleurs, sur mon site, sur la page d'accueil, il y a toute une section complète accordée à l'école Jedi.
Ah ben, tu vois.
C'était un des piliers de mon site de 1998 à peu près 2007. Ça a été le cœur même de mon travail de l'école Jedi.
D'accord.
C'est-à-dire que j'avais des gens, des adultes, des gens même de 50, 60 ans qui venaient ici,
ouais,
avec aussi des jeunes de 15, 16 ans qui voulaient développer les techniques de l'école Jedi. C'est sûr que là, on fait un clin d'œil à George Lucas et Star Wars, La Guerre des Étoiles.
Ouais.
Je ne sais pas si tu as suivi la série, la saga, hein, 6 films.
J'ai vu que le dernier, et j'ai jamais eu le courage, si tu veux, de remonter tous les autres. Parce que j'ai toujours beaucoup de mal avec la suite des films. C'est-à-dire que quand j'en trouve un tellement bien, j'ai du mal à aller voir les autres parce que j'ai toujours peur d'être déçu. Tu vois, je suis allé voir Matrix 2, j'ai été déçu, tu vois, par exemple, sur Matrix 2. Donc voilà, je me suis arrêté à Harrison Ford dans le 1, qui est en fait le dernier, en fait.
Ouais, ben là, en général, comme dans Matrix, c'était des sequels, c'est-à-dire des films qu'on rajoute après que le film est fait, le principal. Alors que dans la série Star Wars, La Guerre des Étoiles, George Lucas avait déjà les scénarios de tous les épisodes qu'il a présentés. Puis il a même, c'est curieux, mais il a commencé par l'épisode numéro 4.
Ouais.
Tu sais, le retour du Jedi, l'épisode numéro 5, numéro 6. Fait qu'il n'a pas été de manière chronologique. Alors, on ne peut pas dire que c'était des sequels là, qu'il provoquait s'il voulait conserver le succès du premier. Non, non. Il avait son idée de fait. La raison pour laquelle il a commencé par le numéro 4, 5 et 6. Après, il a fait 1, 2, 3.
Mm-hmm.
C'est qu'il y avait dans les plans de caméra des scènes où il ne voulait pas utiliser soit de l'animatronique, avec des marionnettes, comme il l'a fait avec Yoda bien souvent. Il voulait avoir la haute technologie de l'électronique qui se développait lentement. Alors, il savait qu'il avait besoin pour la guerre des clones d'une multitude de personnages qu'on verrait bouger de manière différente les uns des autres. La seule façon d'y arriver, c'était par l'infographie, c'est-à-dire manipulation par ordinateur.
Ouais.
Alors, donc, on n'était pas prêt au cinéma dans les années 80 à faire ça.
Ouais.
Alors, il a préféré commencer par l'épisode numéro 4.
Mm-hmm.
Alors, on se souviendra de l'épisode numéro... Ben, je pourrais les nommer à la suite l'un de l'autre. Ça va peut-être te donner l'eau à la bouche. Moi, ce que je souhaiterais, mon garçon Stéphane, que tu as bien connu, il m'a donné en cadeau à Noël toute la série La Guerre des Étoiles, la saga au complet en Blu-ray.
D'accord.
C'est 5.1, le son surround. C'est génial. Et tu ne serais pas déçu Puis il faut commencer par l'épisode numéro 1, si on veut vraiment comprendre l'évolution des personnages. Et tu sais que l'année prochaine, ouais, il va y avoir un 7e épisode qui va être sur les écrans des cinémas.
Ah oui?
Oui, on arrive avec un 7e épisode. Et c'est la compagnie de Disney World, Walt Disney, qui a les droits de faire la série. Et il y aura comme personnage principal, au lieu d'un homme Jedi, là, ça va être une femme Jedi, qui va être la vedette. Ouais. Prochain épisode, pour l'an prochain. Alors, si on les reprend un par un, pour te donner le goût, là, on va se mettre dans le contexte. Et puis, Mathieu, il y a la musique, thème merveilleux. Le premier épisode de tous, c'était, puis là, évidemment, il est arrivé en 4e place dans les cinémas. Là. On a commencé par 4, 5, 6, et tout d'un coup arrive l'épisode numéro 1. Alors, prenons-les chronologiquement, puis on va après ça mieux comprendre. Et l'idée que j'ai aujourd'hui, d'abord, Bob, si tu me permets, j'aimerais saluer deux personnes.
Ouais.
Paul-Georges
Sansonetti.
Ben oui, parce qu'il a déjà fait une émission avec toi sur Star Wars, la guerre des étoiles. Bon, c'est incontournable, ce monsieur-là, et je l'apprécie beaucoup, beaucoup. Il y a aussi Vincent Lauvergne.
Oui.
Qui, lui, avec ton égrégore qu'il a créé pour la station, ça a été formidable, la preuve, hein? Le succès est là. Alors, il y a les connexions, lui, sur les plans de la magie. Ouais. On va parler un peu plus tard dans notre rencontre aujourd'hui, si le temps nous le permet, de faire le parallèle entre la saga Star Wars, la guerre des étoiles, et la saga Harry Potter.
D'accord.
Parce que Harry Potter, c'est l'école des sorciers, alors que l'autre, c'est l'école Jedi. Et dans un comme dans l'autre, on trouve un jeune héros au départ, hein? Harry Potter ou Anakin Skywalker, le petit garçon qui, dans l'épisode numéro 1, fait la rencontre des Jedi pour la première fois. C'est dans La menace fantôme.
Ouais.
Et là, il apprend que les Jedi qui sont venus parce qu'ils ont eu un problème technique avec leur vaisseau, ils arrivent sur sa planète, Coruscant, et puis là, il va être... Tatooine, c'est-à-dire la planète Tatooine. Bon, alors là, il le décèle comme un enfant prodige.
Ouais.
Il a développé lui-même la technologie de son robot personnel, qui est le C-3PO.
Ouais.
Il a fabriqué un pod racer pour faire la course des pod racers. Alors, il est très génial. Il est solitaire. Il est très intelligent. Et on fait une analyse de son sang. Et ça, c'est l'un des éléments pivots de la série de la guerre des étoiles, qui est en rapport avec, évidemment, l'école Jedi que j'ai développée en me disant, oui, c'est pas donné à tout le monde d'avoir la capacité de gérer tous les pouvoirs des Jedi.
Ouais, ouais, ouais.
Et c'est ce que c'est, la prise de sang, c'est pour vérifier le taux de midi-chlorien dans le sang.
D'accord.
Et ça, c'est George Lucas qui a utilisé ce terme midi-chlorien.
Mm.
J'en reparlerai un peu plus tard. Ben, je peux en parler maintenant, puisque c'est dans le premier épisode, La menace fantôme. Alors, ils font une analyse du sang du petit bonhomme. Et là, ils se rendent compte qu'il y a un sang d'une qualité extraordinaire. Ça dépasse tout entendement. Et dans le document que je t'ai remis, je ne sais pas si on t'en a fait une photocopie.
J'ai tout sous les yeux.
Bon, alors à la page 3, dans le carré numéro 10, c'est pour qu'on puisse le suivre tous les deux. Regarde le taux des midi-chloriens. Parti par million.
Ah oui.
Anakin Skywalker en haut.
27 700 000, c'est ça?
Oui. Alors, ce qui est très supérieur à la moyenne, c'est lui qui est Anakin le plus riche en midi-chloriens. Qu'est-ce que sont les midi-chloriens? Les midi-chloriens, ce sont de minuscules formes de vie qui résident dans les cellules de tout être vivant et qui communiquent avec la force.
D'accord.
Tu sais, quand on dit la force soit avec toi, comment tu ressens la force? Tu la ressens parce que tes midi-chloriens sont à l'écoute dans ton sang, dans ton être entier, parce que tu as du sang partout dans le corps, ou à peu près. Et ça ressent le message que la force envoie, que l'énergie de la force. Parce que la force, on ne sait pas vraiment, parce qu'on connaît notre espace-temps, l'espace et le temps, et la force serait dans la troisième réalité, dans la troisième dimension de notre réalité, qui se trouverait être ce que j'appelais la dernière fois l'ordre. Et ça, ça vient des plans avant le Big Bang. C'était là, c'est là, ce sera en dehors du temps et de l'espace. Et la force, c'est, on pourrait dire, ton double, la voix de ta conscience, ton esprit, avant d'être dans la matière. Alors, ils vivent en symbiose avec nous, les midi-chloriens. Les midi-chloriens sont des choses, sont des choses qui sont analysables, qui sont même vérifiables en laboratoire aujourd'hui même. Il existe le somatoscope, inventé par le docteur le professeur Gaston Assens, d'ailleurs, qui vient de France à la Deuxième Guerre mondiale, il est obligé de s'enfuir. Il est arrivé ici au Québec et il a développé le somatoscope, qui est un microscope qui permet de voir réellement, on pourrait dire, les midi-chloriens. Alors là, c'est gros, là. Moi, j'ai été me faire analyser pour le plaisir, et mes garçons aussi, parce que c'est comme on dirait dans la série Star Wars fondamentale. Est-ce que tu as beaucoup de midi-chloriens ou tu n'en as pas beaucoup? Comment se comporte-t-il? Lui, évidemment, il n'appelle pas ça des midi-chloriens. Hein? Le docteur Nassens, il appelait ça des somatides.
D'accord.
Et Wilhelm Reich. Je ne sais pas si tu as entendu déjà parler de Wilhelm Reich, qui est un grand... Non, bon, alors ça aussi, c'est un... Oh, écoute, je sais que tu as des invités qui viennent te parler d'un sujet, d'un personnage. Ils peuvent passer une heure à nous expliquer, je pense, Arts. Comment il s'appelle? C'est Claude Arts?
Claude Arts.
Oui, bon, je pense qu'il prend le temps de nous instruire d'un personnage, puis il va en profondeur, un bon conteur, puis ça, c'est important. Mais un gars comme Wilhelm Reich, on ne peut pas l'éviter. Ce type-là avait lui aussi découvert que dans le corps humain, il y a ce que lui appelait des chloridiniens. Et Star Wars, avec George Lucas, il appelle ça des midi-chloriens.
D'accord.
Alors, chloridiniens, midi-chloriens, j'ai comme l'impression qu'il y a un clin d'œil de Lucas à Wilhelm Reich. Pourquoi pas?
Ce serait possible, hein?
Ben, très possible. Et là, je suis un des rares à aborder ce sujet-là parce que, évidemment, ça touche une réalité médicale pour tout le monde. Là. Rendez-vous compte que la série de la Guerre des Étoiles, ça n'est pas seulement que de la fiction. C'est un fait basé sur la tradition en utilisant le principe des grands mythes. C'est ce que c'est un mythe. Là,
ouais,
comme,
bien sûr.
Bon. Et les gens, ils croient aux mythes. Il y a une valeur dans les mythes. Joseph Campbell, les héros sont éternels. Campbell et Moyer ont publié un livre qui s'appelle « Le pouvoir du mythe ». Et ça nous amène à réaliser que pour qu'une chose perdure et qu'elle nous touche dans le fond de notre être, il faut qu'elle s'associe à des valeurs, j'allais dire presque à une réalité qu'on a intégrée dans notre être. Tu sais, quand le film E.T. de Steven Spielberg, l'extraterrestre E.T., là, vous dites en France?
Oui, E.T., oui.
Bon, alors le film E.T., c'est carrément la venue de Jésus, laisser venir à moi les petits-enfants, il se tient avec des enfants, il fait des miracles autour de lui, les fleurs qui reprennent vie, il redonne la vie à des choses qui sont presque mortes, et à la fin, il est comme abandonné dans le jardin quand il veut communiquer avec, je sais pas si vous avez traduit ça par maison-maison ou home.
Oui, maison-maison.
Maison-maison. Bon, alors, avec une scie à couper, là, une scie ronde, là, avec le vent, là, puis il veut communiquer avec sa planète, et puis finalement, c'est comme le Christ dans le Jardin des Oliviers qui demande l'aide de son père, puis « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et finalement, il va dépérir, il va mourir. Bon, alors, là, l'armée arrive, on s'empare de son corps et finalement, on considère qu'il est décédé. Alors, l'extraterrestre est mort, comme le Christ, hein? Il meurt. Il est enterré. Ben, il n'est pas enterré, là, il est mis dans un tombeau qui est un sarcophage cryogénique, là, où on le garde dans le froid congelé. Et son cœur reprend vie. Il devient le cœur glorieux du Christ, là, le cœur brillant, là. Et il revit. Résurrection. Et plus tard, pas longtemps après, il se sauve en bicycle et il monte l'ascension au ciel. On comprend que c'est un archétype, c'est un mythe qui a été réutilisé par Spielberg et qui fait que ça a été un si grand succès parce que tout le monde a reconnu, sans le savoir de manière ouverte, que c'était la même histoire que celle qui a fait marcher pendant 2000 ans tout l'Occident, le christianisme.
D'accord.
Alors, on comprend que quand on utilise les mythes, on touche au pilier même de la culture d'un peuple, d'un monde. Et si tu arrives à le présenter d'un angle différent, comme la Guerre des Étoiles, on l'a présenté sur un angle un peu différent, mais on arrive au même résultat, si tu te souviens, le dernier épisode, c'est celui que tu aurais vu, là, le sixième, là.
Ouais.
Comment ça se termine? Les trois héros, Yoda, Dark Vader, qui est plus le méchant Dark Vader, qui s'est converti à la dernière seconde, et puis Obi-Wan Kenobi, apparaissent à Luke Skywalker comme des spectres lumineux, parce que c'est quoi la résurrection dans un corps glorieux des trois personnages principaux?
Ouais.
Tu comprends que c'est encore le retour à l'archétype. on nous enseigne, on nous montre, puis les gens ne le voient pas. À première vue, il faut que tu aies une démarche qui te permette de dire, écoute donc, il y a plein d'histoires du Christ, eux autres. Ben oui, mais c'est un fondement de notre culture. Mmh. On est attaché, je dirais pas émotivement, mais presque culturellement, en tout cas, et sans s'en rendre compte, ils touchent aux mêmes cordes sensibles et ça nous atteint. Il faudrait préciser une chose en commençant, que la guerre des étoiles, c'est l'envers du titre anglais. En anglais, c'est Star Wars.
Ouais, ouais.
Alors, si on met le Star Wars, on met le Wars au pluriel,
ouais.
Donc c'est des guerres.
Ouais.
Wars, ça veut dire guerre. Star au singulier, donc c'est l'étoile des guerres.
Mm-hmm.
Alors qu'en français, c'est la guerre des étoiles.
Ouais, ouais.
Tu vois que c'est vraiment inversé, là, hein?
Oui, bien sûr, oui, bien sûr.
Bon, alors si c'est inversé à ce point-là, c'est qu'un message.
Ah bon?
Ben, qu'un. George Lucas, il est américain,
ouais.
Il parle anglais.
Ouais.
Et lui, il vit dans « the biggest, the greatest », le peuple le plus gros, le plus puissant, le plus, j'allais dire, le plus ravageur du monde. On ne gênera pas ici chez Bob, hein?
Ouais.
Bon, alors, vu de l'anglais, vu de l'américain, vu de son regard à lui, c'est « Star Wars ». C'est des guerres partout dans le monde, hein? En Irak.
Ouais.
En Libye, en Égypte, en Afghanistan, au Vietnam. On va faire des guerres partout, là. Ça, c'est les Américains. Alors, c'est Wars, c'est l'étoile. Puis on sait que le drapeau des Américains, ben, c'est le Star Spangled Banner. T'sais, c'est la fameuse bannière des étoiles.
Ouais.
Alors, on voit que le peuple américain, l'étoile, a cinq branches. C'est pour les cinq continents, dominés sur toutes les nations, etc. Bon, et donc, c'est la guerre, c'est, en anglais, c'est Star,
mm-hmm.
l'étoile américaine, Star Wars, qui va faire des guerres. Dans le film, ben, l'étoile, on le sait, c'est l'étoile de la mort.
L'étoile noire.
L'étoile noire, ouais. C'est ça. D'ailleurs, il y a eu deux gros satellites là, artificiels qui ont été fabriqués. Le premier, l'étoile noire, ben, c'était l'étoile de la mort.
D'accord.
On l'a reconstruit parce qu'il y a un des épisodes où il explose à la fin.
Oui.
Ils le rebâtissent, ils le reconstruisent. C'est curieux parce que cette fameuse planète astéroïde qui se déplace dans l'univers, parce qu'il se déplace, pourrait très bien se placer en orbite autour d'une planète comme la Terre, toujours orientée dans la même direction pour observer parfaitement ce qui se passe sur la Terre. Ça vous rappelle pas notre Lune?
Oui, oui.
Puis il y a comme un cratère qui s'appelle Tycho. Le fameux cratère Tycho, qui ressemble un peu à la coupole qui est sur l'étoile de la mort et l'étoile noire. Les deux ont porté la même coupole intégrée à la structure là, de surface. Et on dirait que c'est fait pour observer vraiment la Terre. Parce que vous savez que la Lune qui tourne autour de la Terre, mais elle tourne sur elle-même à la même vitesse. Donc, elle présente exactement toujours la même face à la Terre. Si on avait voulu placer un objet d'observation, d'espionnage, on ne ferait pas mieux.
Mais...
Tu me comprends?
Bien sûr, ben oui.
Et quand on a laissé tomber la partie supérieure du LEM, quand les astronautes sont allés sur la Lune,
ouais.
On avait mis des sismographes sur la surface de la Lune, et quand ça a tombé sur la Lune, là, ça s'est écrasé sur la Lune après que les astronautes étaient revenus dans la capsule qui était en orbite autour de la Lune, après le voyage sur la Lune,
ouais.
Ils ont fait chuter la partie du LEM, la partie supérieure, la base était restée sur la Lune. La partie supérieure, ils l'ont fait chuter sur la Lune, elle a frappé la Lune, et elle a provoqué une espèce de tremblement de terre, boum, en arrivant sur la Lune.
Mm-hmm.
Et les sismographes ont rapporté, de manière scientifique officiellement, qu'il y avait un écho qui revenait.
Ah bon?
Et là, ça a été dit à un moment donné, ben oui, mais pour qu'il y ait un écho qui revienne de cette façon-là, deux, trois reprises de plus en plus faibles,
mm-hmm.
c'est que la Lune est creuse.
Ah oui, ça c'est une théorie qu'on a déjà évoquée ici.
Oui, bon, ben oui. Puis ça, c'était le moyen de le savoir, c'était de laisser tomber quelque chose très violemment avec un sismographe qui pouvait être attentif. On contrôlait le sismographe, on était à l'écoute et on s'est aperçu qu'après le premier choc, il y a eu des échos à deux, trois, quatre reprises. Alors on s'est dit ça pour que ça revienne, c'est qu'il y a quelque chose de creux, là. Ça, c'est incroyable. Bon, alors est-ce que déjà la Lune ne serait pas une étoile de la mort installée autour de la Terre? On n'oublie pas que la guerre des étoiles, ben ça a été d'abord en disant, au
ouais.
début, c'est il y a très, très longtemps, dans une galaxie très, très lointaine,
ouais.
Ouais. Tu te souviens, là, quand
ouais, c'est au début du film.
Là,
rôles,
là. Ouais. C'est ça. A long, long time ago in a galaxy far, far away.
Ouais.
Eh bien, la guerre des étoiles, on a compris que pour les Américains, c'est Star, l'étoile qui fait des guerres.
Oui, c'est ça. C'est
et, nous, et nous qui sommes francophones, ben, on reçoit la guerre des étoiles.
Ouais.
Parce que le Star Spangled Banner, c'est les étoiles américaines.
Ouais.
Sur chaque avion américain, il y a une étoile.
Mmh.
Alors, on subit des guerres, on subit la guerre des étoiles.
Ouais.
La guerre des étoiles en français.
Ben
oui, parce qu'on l'a subi, nous autres. Voilà. On pourrait, tant qu'à parler des mots, des noms, rappeler que puis ça, Paul-Georges Sanchonetti en a fait l'étalage du sens des noms des différents personnages.
Mm.
On se souviendra de Obi-Wan Kenobi.
Ouais.
Si on le dit en anglais rapidement, c'est Obi-Wan Kenobi.
Ah, ouais. Obi-Wan Kenobi. Can you be? Ah oui, d'accord. Okay.
Obi-Wan, can you be?
Ouais.
Obi-Wan,
ouais.
Tu es un.
Ouais.
Tu es one,
ouais.
Un. Can you be? Kenobi, ça se dit. Kenobi, c'est peux-tu l'être,
ouais.
Le un.
Ouais.
Celui qui réunit tous les autres. Ça a été le Obi-Wan, c'est un peu le Christ. Hein, on préfigurait le Christ avec Obi-Wan.
Mm.
C'était le sage avec la grande. Comment on appelle ça, là, avec la capiche sur la tête.
La toge, là.
Oui, la toge, oui, c'est ça. Yoda, il faut savoir que Yod. C'est la plus petite lettre de la langue hébraïque, un yod.
Ouais.
Quand on dit on ne changera pas un iota dans la langue hébraïque, dans les textes sacrés, c'est le yod. Et le yod est fait, puis il ressemble exactement à une apostrophe. C'est comme une petite virgule dans les airs. Non?
D'accord.
Alors, c'est tout petit, mais c'est le personnage le plus puissant de toute la gang.
D'accord.
À part, évidemment, de Anakin Skywalker.
Ouais.
Han Solo. Hans Weidreich.
Ouais,
1, 2, 3. Hans, c'est un. Solo. Solitaire.
Ouais.
Solo. Un solo, quand on dit on va faire un solo. Oui,
bien sûr. Hein.
Donc, c'est le solitaire. Et Hans Solo, c'est le mercenaire. Lui, on le paye, il va aller faire la job. Il devient ami de Luke Skywalker et surtout de la princesse Leia, qu'elle va être en amour avec d'ailleurs à la fin. Bon, ben Han Solo, c'est vraiment le solo, le solitaire. On voit que même les noms ont été choisis par George Lucas pour inspirer quelque chose de précis. Luke Skywalker, ben là c'est clair, Luke.
Ouais.
Skywalker.
Ouais.
Luke Skywalker. Quand on le dit vite, c'est Luke Skywalker. Luke Skywalker. C'est lumière. Tu sais, quand on mesure la quantité de luminosité, on dit 40 lux, 50 lux. Un lux, ça représente la lumière d'une chandelle. Deux lux, c'est deux chandelles. 50 lux, c'est comme si on allumait 50 chandelles.
Ouais.
Alors, lux, sky, le ciel. Walker, c'est le marcheur. Celui qui marche dans le ciel avec la lumière, ben, c'est le porteur de lumière dans le ciel. C'est très connu en ésotérisme. C'est celui qu'on appelle Lucifer.
D'accord.
Luciferé.
Ouais.
Il faut le faire. Alors, il nous montre que le Luke Skywalker, qui fait partie de la rébellion, donc il est le rebelle contre l'Empire.
Mm-hmm.
L'Empire, c'est le nouvel ordre mondial qui est installé et qui gère tout l'univers à sa façon. Et on est obligé de payer l'impôt, on est obligé d'être soumis comme des esclaves partout dans l'univers. Et là, il y a une rébellion qui se développe. Luke Skywalker, c'est le rebelle, c'est l'ange rebelle, comme dans la tradition chrétienne. Le Lucifer qui dit « non serviam, je ne servirai pas ». Alors, on voit que les archétypes utilisés dans la guerre des étoiles sont très, très, très anciens. Correspondent à la tradition, en tout cas occidentale. C'est pour cela que, sans doute, la série La Guerre des Étoiles, la saga de 6 films, plus un 7e qui s'en vient bientôt, a transporté la population de tout âge, que ce soit des jeunes et même des vieux. On se dit, moi je dis même, d'après ce que j'ai pu constater, que les jeunes connaissent beaucoup mieux les mythes par le biais de la série de La Guerre des Étoiles que par la Bible, mettons.
Bien sûr, complètement, oui.
Ben, complètement, c'est ça. Et je te recommande d'aller la voir une bonne fois, parce que il y a un enseignement ésotérique très, très précis dans La Guerre des Étoiles, du début à la fin. Alors, si je continue à faire la suite rapidement des épisodes, le premier, c'était La menace fantôme, dans lequel on parle des midi-chloriens. J'en ai glissé un mot tantôt, avec Wilhelm Reich, avec le docteur Gaston Lassens. Ouais. Ils ont découvert qu'il y a vraiment, dans le corps humain, dans le sang du corps humain, c'est pas les globules rouges puis les globules blancs dont je parle, là. C'est quelque chose qui est encore plus précis, puis qui est visible. Ouais. Ça, c'est ce qui est extraordinaire, c'est vraiment visible. Et le microscope de Gaston Lassens permet de voir ce qu'aucun microscope électronique ne peut voir. Pourquoi? Parce que les midi-chloriens, les somatides, comme il dit, meurent dès qu'on leur impose une radiation par les microscopes électroniques. Et à l'optique, on ne peut pas les voir. Ça prenait un microscope optique qui travaille sur les phases de la lumière avec l'ultraviolet et la lumière incandescente normale, et en utilisant des filtres magnétiques qui permettent d'avoir des ondes, des couches qui passent comme des vagues sur la matière vivante encore. Et on sait que les fameux somatides meurent en dedans de 30 minutes après qu'on a fait une prise de sang.
D'accord.
Donc, quand on fait une transfusion sanguine, qu'on s'inquiète pas trop, il reste plus grand-chose de vivant, même si on s'en sert évidemment pour la santé quand on fait des transfusions sanguines. Mais c'est quand même pas la partie la plus essentielle du sang qui contient justement les midi-chloriens, comme on dit dans Star Wars, la guerre des étoiles.
Ouais.
Alors, en regardant la série, on voit tout de suite là, les midi-chloriens, le taux, tu peux voir, c'est sûr, Anakin Skywalker, c'est lui qui en a le plus.
Ouais.
Ensuite, Darth Sidious, ben, c'est le fameux Palpatine. Et le Palpatine, c'est l'empereur Palpatine.
Ouais.
Hein? Bon, ben lui, il y en a 20 000. 20 000 PPP, là, PPM, parties par million, de midi-chloriens dans le sang. À 20 000, c'est quand même beaucoup. On a vu qu'Anakin en avait 27 700. Et les 20 000, Palpatine utilise à peu près jamais d'objets. Il y va seulement par ses mains, il envoie de l'énergie, comme s'il envoyait le chi ou le ki, et il attaque les autres par la force de sa puissance psychique. Et c'est là qu'on s'intéresse au pouvoir psionique. J'ai déjà fait une émission complète avec toi, Bob, sur les pouvoirs psioniques.
Bien sûr. Hein.
Oui, et ça permet déjà de se donner une idée de quoi on parle.
Mm-hmm.
Et on voit donc que dans Star Wars, dans la guerre des étoiles, il y a quand même des enseignements qui rejoignent la réalité physique, matérielle. On peut remarquer que lorsqu'on fait de la photo clairvoyante, ou encore mieux, du vidéo clairvoyant, moi j'ai ici à la maison la machine clairvoyante, quand j'ai des gens à certaines occasions pour mes écoles Jedi, on met la main, on met les doigts sur une plaque sensible, et il y a de la radiation qui se dégage autour de la plaque des doigts, de l'empreinte, si on veut, ou de la main, ou d'une feuille. Tout ce qui est vie dégage une lumière. Et cette lumière-là, cette intensité de la lumière nous permet de voir le degré d'intensité de vitalité de la personne. Et aussi son équilibre, parce qu'on sait que le corps humain est traversé par des méridiens que l'acupuncture connaît très, très bien.
Mm-hmm.
Et au bout des doigts, on a des méridiens différents. On peut connaître le méridien du foie, des poumons, des reins. Et là, on peut voir s'il y a des éléments de faiblesse dans un corps humain ou de très bonne santé. Ce qui est dit là est très important pour comprendre que tu peux pas devenir un Jedi si au départ, tu n'as pas une constitution physique parfaite. On ne peut pas être un Jedi, quelqu'un qui est infirme, quelqu'un qui a des prothèses pour survivre, parce qu'à ce moment-là, il n'y aura pas le talent total, il va avoir une faiblesse, et la force va utiliser cette faiblesse pour le détruire. Un peu comme la rouille qui va s'attaquer à l'automobile, là où il y a un endroit faible.
Mm-hmm.
Alors ça, c'est terrible, parce qu'Anakin Skywalker, Anakin, le beau petit bonhomme du début, du premier épisode, c'est lui qui est génial, c'est lui qu'on dit, il y a tellement de midi-chloriens qu'il est sûrement l'élu, parce qu'on dit, oui, il doit être celui qu'on attend qui va rétablir l'équilibre dans la force, dans l'univers, parce que là, il y a un déséquilibre, le nouvel ordre mondial prend la domination, gère toute la planète à sa guise, il n'y a plus de démocratie qui peut faire face, les corporaties sont installées, et là, on subit. Bon, alors, arrive que l'enfant qui est Anakin, malheureusement, va subir des gros chocs dans son enfance. Mmh. Il va apprendre que sa mère a été tuée par des Sith. Il devient enragé, vengeur. C'est fini. Pour lui, là, ça va s'en aller du mauvais côté, de la force. Comme on dit, il va aller du côté sombre de la force, the dark side of the force. Là, il y a dans les noms, là, je parlais de Palpatine tantôt, qui est Palpatine, qui est l'empereur, ben, il ressemblait, curieusement, avant qu'il soit élu, le fameux Joseph Ratzinger. Je ne peux pas passer à côté de ça parce que c'est un clin d'œil du destin. Le pape Benoît XVI. Je
ne
sais pas si tu te souviens. Ouais, le pape Benoît XVI, si tu regardes bien, là, il ressemble à Palpatine.
Ah, je vais regarder ça.
Oui, oui, qui a été, créé par George Lucas 30 ans avant que Benoît XVI soit élu. Ratzinger. Ratzinger, ça veut dire en français le rat chantant. Hein? Ratzinger, le singer, le chanteur, le rat chanteur. Et Palpatine, c'est le pape, si on veut, dans Star Wars, dans la guerre des étoiles. C'est un clin d'œil du hasard. Là,
ah, c'est vrai qu'il lui ressemble. J'ai la photo sous les yeux. C'est vrai qu'il lui ressemble, c'est hallucinant.
Ah oui, c'est hallucinant. Mathieu, qui t'a trouvé ça, là?
Non, j'ai pris mon ordinateur sous les yeux, là, et je regarde ça pendant que, voilà.
Ben oui, c'est ça. Ouais, c'est presque, je te dirais, une des raisons pour lesquelles ce pape-là n'a pas pu le lever. Il est resté... Le peuple de l'Occident avait déjà vu son image qui était l'empereur, le méchant, le super méchant, et il était le pape dans Star Wars, le Palpatine. C'est triste à dire, mais il aurait dû en choisir un qui ne ressemblait pas à le personnage le plus affreux, diabolique. Alors, il a donné sa démission avant même de mourir. Je peux te dire que la série de la guerre des étoiles a peut-être eu un effet qu'on insoupçonné, mais en tout cas. Alors, on nous dit que lorsque tu es à l'âge de 17, 18 ans, 20 ans, évidemment, les belles femmes te tatillent, ben oui, mais un bon Jedi ne se marie pas pour ne pas être dépendant d'une autre personne.
Mm-hmm.
C'est dans les consignes. Tu peux pas devenir Jedi si tu es marié. Encore moins si tu as des enfants. Parce que la force peut se servir de l'amour que tu as pour une personne ou pour tes enfants pour venir te piéger. C'est-à-dire qu'on peut te faire du chantage. S'il y a un kidnapping, on demande de l'argent, une rançon, on peut te demander, tu vas faire telle chose, tu vas prendre telle décision. Un Jedi doit être totalement libre. Et s'il y a une emprise sur lui qui peut être prise par la relation qu'il y a avec une femme ou avec ses enfants, il est fait. Un bon Jedi ne peut être séparé en deux personnes. Il est complet en lui-même. Souvent, on dit quoi? Ma douce moitié. Tu sais, quand tu parles de ta femme, ma douce moitié.
Ben non.
Un Jedi ne peut pas être avec une moitié, il est complet. Bon. Alors ensuite, un bon Jedi se doit de suivre la voie du milieu. Et ça, c'est important, la question de la voie du milieu, parce que tout être humain, quel qu'on soit, on a ou on passe par, ou on a une tendance à être sur l'une des quatre voies. Les orientaux parlent de par quatre chemins. Alors, qui dit par quatre chemins? Il y a la voie mystique, les petites pattes croisées, les Aum, je vois. Il y a la... Tiens, je te l'ai placé sur la première page du document que je t'ai envoyé, Bob. La voie mystique, la voie du religieux, la voie du scientifique, la voie du guerrier. Alors, il y a quatre chemins par quatre chemins qui sont très distincts les uns des autres. Hein. Puis, si tu peux les voir en couleur sur le document que j'ai envoyé, moi, je l'ai envoyé en couleur, on voit très bien que ça se place en couleurs très distinctes. Bon, alors, tu as le bleu qui est en haut. Je ne sais pas si toi, tu le vois en couleur.
Oui, je le vois en couleur. Ouais.
OK. Je parle beaucoup, là. Si tu as des choses à dire, je gêne-toi pas, là.
Hein? Ah non, t'inquiète pas. Tant que je te dis rien, c'est que je bois tes paroles.
OK. Mais j'espère que c'est pas ennuyant pour le public parce que je veux pas rien imposer, là, mais c'est un condensé d'un cours de Jedi que j'ai donné pendant 10 ans. Ça prenait à peu près 6 mois pour faire la base. Et ce que je fais présentement avec toi, c'est de recondenser la base en une heure. Là. Alors, par les quatre chemins, on va retrouver dans la voie du mystique Yoda. Dans la voie du religieux, on va retrouver Obi-Wan Kenobi.
Uh-huh.
C'est un peu comme le Jésus. Là. Dans la voie du scientifique, ça va être l'empereur.
D'accord.
C'est pas très bon, mais c'est parce que lui, c'est lui qui a la technologie avec lui, c'est lui qui domine sur la matière, c'est lui qui a donc la voix du scientifique. Et le guerrier, la voix du guerrier, ben on va retrouver Luke Skywalker et puis évidemment le guerrier Darth Vader lui-même. Mais quand on devient Jedi, on quitte les voies du pourtour pour entrer dans la voie du centre. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la voie du centre? L'artiste.
Ah bon?
Et curieusement, là, Pavlov, on a parlé du chien de Pavlov là, qu'on faisait saliver en faisant entendre une cloche, ben Pavlov avait déjà déclaré que l'artiste est l'être humain le plus accompli. Pourquoi? Parce que quand tu es artiste, tu es obligé d'utiliser les quatre chemins, les quatre voies. Tu es obligé d'avoir une vision mystique de ton œuvre d'art, une volonté, comme dans la religion, de d'imposer ta vérité dans ta structure artistique que tu vas faire, que ce soit une pièce musicale, une sculpture, une peinture. L'artiste est dans la voie du centre. Et quand on demande à quelqu'un, est-ce que tu fais quelque chose d'artistique dans ta vie, la musique ou je sais pas, non. Ben oui, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, moi, je suis telle affaire et je fais que ça. Ah bon? Pas d'intérêt pour écouter de la musique, pour regarder des paysages et peut-être en faire des peintures ou faire de la photographie. Non, ça m'intéresse pas. Ah bon? OK. Ben dis-toi que, tu sais, non, mais il y a des gens qui sont... toi, déjà, la façon de faire tes émissions, la façon de monter ton entreprise, c'est de l'art. De faire marier autour de toi des gens qui vont être sur chacune des voies. T'as le mystique, moi je veux dire que à ce que j'observe, Mathieu, il est proche de la voix du mystique. C'est le gars qui a l'intuition des choix de musique. Il a une présence qui est à un autre niveau quand tu fais ses entrevues avec ses invités dans sa série à lui. Là. T'as les guerriers, ben toi, t'es un peu sur la voie du guerrier beaucoup. Hein, parce que c'est le gars qui va au front puis qui a affronté, c'est ça. T'as les scientifiques qui s'occupent de la technologie chez vous. Ton site, tout est très fonctionnel. C'est des scientifiques. Ils savent comment opérer les choses. Le religieux, ben c'est des gens, comme les invités que tu reçois, qui professent leur vérité. Tu sais, chacun arrive avec sa vérité. Puis je pense que c'est ça. Puis moi, d'un point de vue. Et au bout de la ligne, pour le public, leur rôle, c'est d'être artiste. C'est-à-dire de ne pas en faire une religion, ni de mon site ésotérisme expérimental, ni de Bob vous dit toute la vérité. Ouais. C'est pas une religion, là. C'est pas une secte, ni chez vous, ni chez moi. Moi, j'ai pas des membres, j'ai des abonnés. C'est très différent. Toi aussi, c'est
bien
des
sûr.
Abonnés.
Bien sûr.
Parce que des membres, c'est comme si on rentre dans une secte. Tu sais, je veux dire, on est membre de telle affaire. Non. On est abonné. Et la voix du centre, qui est l'artiste, pour le public, c'est d'en profiter comme on regarde une œuvre d'art. Tout ce que Bob fait, c'est une œuvre d'art, dans le fond. Et il y met toute son énergie pour le succès de l'entreprise et de tout ça. Alors, quand on parle des Jedi, on parle des chevaliers Jedi. On ne parle pas des guerriers Jedi, parce que s'ils étaient guerriers, ils seraient seulement dans la voie du guerrier. Mais on a, Lucas a bien vu, en les appelant des chevaliers, comme les chevaliers de la table ronde, comme les chevaliers templiers. Bon, alors parlons des templiers, le symbole des templiers, ce sont deux cavaliers sur le même cheval. Pourquoi? Ça représente qu'ils sont à la fois moines et guerriers. C'est-à-dire qu'ils ont l'épée avec eux, ils peuvent se battre pour défendre... D'ailleurs, la devise, hein, pour défendre la veuve et l'orphelin.
Ouais, ouais.
Et puis, ils sont censés être sans peur et sans reproche.
Ouais, ouais.
Hein? Ben oui. Et puis, tu connais les mousquetaires du roi.
Bien sûr.
Leur devise, c'était?
Tous pour un, pour tous pour un.
Exactement. Alors oui, tout ça, là, c'est fondamental dans la pensée chevalier. Et dans la guerre des étoiles, on retrouve très exactement ces mêmes motivations-là, ces mêmes mots d'ordre, ces mêmes règles, ces mêmes devises. Oui, c'est de l'enseignement adapté à l'époque de notre jeunesse aujourd'hui, la guerre des étoiles.
Ouais.
Mais on reprend le mythe de la table ronde avec les douze chevaliers de la table ronde. Et au milieu, le roi Arthur. Et ils sont à la quête du Saint Graal.
Ouais.
Et il y a le jeune Perceval, il va y avoir... Alors, on comprend que la guerre des étoiles répond à un vrai besoin culturel de mise à jour. C'est plus les anciennes religions, c'est même plus les anciennes histoires, je dirais du plan historique, mais qui ont été transformées par les mythes. On est rendu avec la guerre des étoiles à dire aux gens, est-ce que tu te comportes comme un bon Jedi? Tu savais qu'il y a eu des sondages qui ont été faits ici au Canada. Il y avait le sondage pour comment ils appellent ça, Geneviève, là, le nombre de personnes au Canada, puis quelle est ta langue, quelle est ta religion, puis tout ça.
Le
recensement.
Le recensement, voilà.
Le recensement. Bon, ben ici au Canada, il a découvert 300 000 qui ont dit que leur religion était la religion Jedi.
Ah bon?
En Australie, en Angleterre, c'est considéré comme une religion. Dans le Commonwealth, on peut dire. Oui. Alors, je ne sais pas si en France, il y a des représentants de la religion Jedi, mais en tout cas...
Je n'en ai pas entendu parler.
Non, hein, c'est ça. Ben, ici, c'est officiel. Là. Ça a été reconnu. Les gens écrivaient ça comme une boutade là, pour faire en voulant dire... Moi, je ne dirais pas de quelle religion je suis, ou ils ne veulent pas avouer qu'ils sont agnostiques ou athées, mais toujours est-il que il y en a qui écrivaient Jedi. De quelle religion êtes-vous? Jedi. Ben, ça montre à quel point cette série-là a marqué la population, peuple, le monde. Hein. On est vraiment dedans. Et là, est-ce qu'on fait une pause?
Non, on continue. Non, j'ai décidé de ne pas faire de pause ce soir parce que je me suis dit qu'on allait perdre le fil de la conversation.
Ah, très bonne idée. Ben, merci, Bob. Alors, on continue.
Ouais.
Les prérequis pour être Jedi, l'étape numéro 6 du document que je t'ai remis.
Oui.
Tu remarques, on le voit, on commence d'abord à choisir un jeune qui a un taux de midi-chlorien très élevé, comme on a dit tantôt, et il faut qu'il soit encore très, très jeune.
Ouais.
Tellement que dans le premier film, La menace fantôme, ils vont chercher Anakin Skywalker qui découvre qu'il est vraiment génial puis qu'il a un taux de midi-chlorien très élevé, mais il ne pourra pas être Jedi. Pourquoi? Parce qu'il a 9 ans.
Ouais.
Il est déjà trop vieux. C'est incroyable.
Ouais.
Pourquoi? Parce que le principe des pouvoirs psioniques, de pouvoir agir avec son esprit sur la matière, d'avoir le contrôle de l'esprit, de la force, sans être piégé par le mental qui est menteur, par l'intellect qui crée des murs, il faut qu'il soit jeune. 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est pas mal limite.
Ouais.
C'est l'âge de raison. L'âge de raison arrive au moment où, à partir de là, tu dis « ça se peut pas ça ». Ben, si ça se peut pas, tu y arriveras jamais. D'ailleurs, c'est ce qui arrive à Luke Skywalker quand il essaye de faire sortir le vaisseau des marécages. Il est assis sur le bord à côté de Yoda, puis Yoda, il dit « Force-toi, concentre-toi, concentre-toi. » Parce que là où est ta concentration, c'est là que tu es. C'est une des phrases type. Ta concentration définit ta réalité. Ça, c'est une des belles phrases de la série de la Guerre des Étoiles. Ta concentration définit ta réalité. Et si tu doutes, parce que Luke, il se force. Puis là, il y a une vibration qui se crée. À cause des midi-chloriens qu'il porte en lui, il agit dans la force, et la force est à son service, comme lui est au service de la force. Hein, pour tous, tous pour un. Il envoie sa concentration. C'est quoi concentrer? Ça veut dire focaliser. Il focalise sur l'objet qu'il veut faire lever, léviter, sortir du marécage, qui pèse des tonnes, c'est un vaisseau. Son avion de chasse, là, son X-Wing, qu'on appelle.
Ouais.
Alors, il se concentre dessus et ça vibre, mais ça sort pas. Yoda, il lui montre qu'il est capable de le faire, même si lui a 800 ans. Là. Yoda, là, il est rendu à 800 ans. Tu sais que Lucas a choisi les yeux de Albert Einstein pour faire les yeux de Yoda.
Ah, je ne savais pas, non.
Oui, c'est les mêmes yeux. Et là, tu vois mon Yoda, le petit rabougri, là, qui est dans son petit coin, là, puis là, il se force, puis là, le vaisseau va vibrer et va sortir. Et qu'est-ce que Luke dit? J'en crois pas mes yeux.
Ouais.
Et c'est justement pour ça que tu réussis pas. C'est terrible, mais c'est ça. Un enfant qui atteint l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, il devient raisonnable. La raison marche dans sa tête. Il devient mental, intellectuel. C'est fini. Il pourra pas réaliser certaines opérations juste parce qu'il y croit pas. Les enfants que j'ai entraînés avec des cuillères à soupe. Tu prends deux cuillères à soupe du même modèle, exactement semblable, que les coupoles, entre une dans l'autre, et le manche est exactement plié à la même angle. Là. Donc, tu en as deux, sont une dans l'autre, mais parfaitement d'un bout à l'autre. Pourquoi je dis de faire cela? Parce qu'avec deux, tu en as une qui va te servir de référence. Alors, tu en prends juste une des deux. L'autre, tu la laisses sur la table, tu n'y touches pas. Celle que tu tiens dans ta main, tu la tiens par la coupole et tu passes ta main droite, si tu es droitier, ou la main gauche, si tu es gaucher, c'est à cause de l'énergie qui circule dans le corps, et tu la passes au-dessus du manche, qui est dans les airs, et tu te concentres. Mais tu te concentres à l'endroit où la coupole et le manche se rejoignent, là, juste au bout de tes doigts, quand tu tiens avec ton pouce puis ta main, la cuillère à soupe. Et ce qui va se produire, il va se produire que le manche va légèrement pencher. Pourquoi? Parce que ta concentration, si tu as beaucoup de midi-chloriens dans le corps, si tu as une force de concentration, si tu ne doutes pas, et j'allais dire une autre chose amusante, et ça c'est pas Yuri Gellin, mais Pierre Girard, oui, que tu as reçu toi-même en spectacle, sûr, aussi, ouais, et qui m'avait même confirmé la chose, faut que tu aimes le même sentiment d'amour que tu peux avoir en serrant ta blonde dans tes bras, tu approches tes lèvres de ses lèvres. La sensation qui semble être sexuelle, elle est d'abord sensuelle, et cette sensualité-là, tu la projettes sur la cuillère. Pas en pensant que tu vas l'embrasser, en pensant que tu l'aimes. Pourquoi tu la serres dans tes bras? Pourquoi tu aimes être en chaleur humaine, proche, collée? Parce que cette chaleur-là, il y a quelque chose de génial dans ça qui passe, là. Bien, ça, tu la fais passer dans la cuillère. Et à un moment donné, tu vas t'apercevoir que la cuillère va ramollir, comme ta blonde, quand tu l'embrasses, à un moment donné, elle ramollit, hein? Bon, ben alors la même chose se passe. Et là, après, tu prends la cuillère qui était la cuillère témoin, qui était restée sur la table, et tu regardes les deux cuillères, et là, tu t'aperçois, ah, regardons ça, ça a changé d'angle. Mm. Ça s'est transformé tout seul par le pouvoir psychique, par le pouvoir du Jedi. Et ça fonctionne. Mais ça, il faut vraiment avoir la certitude de réussir. Alors donc, première condition de base, c'est commencer jeune. Deuxième, avoir des talents innés. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que déjà, tu as un talent. Quand tu es tout jeune, tu as 3-4 ans, on te place devant un piano. Mm-hmm. Tu as eu l'occasion de voir un oncle, une tante, quelqu'un de la famille jouer au piano ou un artiste, tu l'as vu à la télévision. Mm-hmm. Et là, on t'installe sur le banc, puis on te laisse faire juste pour voir, on t'observe. Et là, on s'aperçoit qu'en mettant tes mains sur les touches, c'est pas long que tu découvres au clair de la lune, mon ami Pierrot. Bon. Okay. Ça veut donc dire qu'il y a quelque chose là dans toi. Tu as un talent inné pour la musique, mais tu peux avoir un talent dans d'autres domaines. Pour Luke Skywalker, pour Anakin, c'était qui a fabriqué son robot, qui a fabriqué son C-3PO. Être, troisième condition, solitaire et réfléchi. C'est quelqu'un qui ne cherche pas à épater la galerie. C'est quelqu'un qui est concentré, qui a un objectif et qui y tient. Quatrième, avoir une destinée prometteuse. Ça peut se faire par ce que je disais le mois dernier avec toi, c'est la métapsychologie. Ouais. On se rend compte à un autre niveau qu'on peut lire dans les lignes de la main, le plan de vie de la personne. On se rend compte de ses vies antérieures, de sa vie postérieure à venir. Et on peut se rendre compte, comme pour le cas d'Anakin, qu'il était l'être annoncé par la prophétie. La même chose dans Harry Potter. C'est le Harry, il se trouverait à être celui qui va être l'attendu, l'élu. Parce qu'il y a même la marque sur le front, là. Alors, tout est. Ça répond donc à une destinée prometteuse. Et le cinquième point, quitter son enfance. À un moment donné, c'est fini. Il quitte sa mère. Ouais. Harry Potter, il quitte son oncle adoptif. Et puis, il se retrouve à l'école de Poudlard, là, au collège, l'école des sorciers. Ouais. Alors, on voit qu'à un moment donné, une rupture entre l'époque de l'enfance, où il vit comme il veut, il fait ce qu'il veut, c'est sa volonté. Puis, à un moment donné, il arrive à l'école. Et là, il reçoit une discipline. Et il s'y tient à sa discipline. Et là, dans la série de la Guerre des Étoiles, il y a un objet qui attire l'attention de tout le monde, c'est le fameux sabre laser.
Bien sûr.
Le lightsaber. As-tu remarqué que les lightsabers n'ont pas toutes la même couleur, le rayon?
Oui, c'est vrai, il y a du vert, il y a du rose, etc.
Ah oui. As-tu remarqué que quand on suit des arts martiaux, des arts martiaux, c'est encore la voix de l'artiste. C'est pas la voix du guerrier, c'est pas des batailleurs, c'est pas des tueurs, là, les arts martiaux. Au contraire, on dit que celui qui a suivi un art martial, habituellement, c'est des arts martiaux, c'est oriental, là, asiatique, le kung-fu, le karaté, le judo, les arts martiaux, quand un maître quelle est la couleur d'un maître? Sa ceinture.
Un maître, c'est une ceinture noire.
Exactement. Puis on a différentes dames, là, des différents niveaux. Alors, tu te souviens donc qu'il y a des ceintures de différentes couleurs dans l'évolution, dans les arts martiaux.
Oui.
Il y a ceinture blanche.
Ceinture blanche, jaune. Après, c'est verte, je crois, ou bleu, ou marron, etc. Et c'est jusqu'à noir, c'est
exactement,
ça?
Exactement. Tu l'as. Et ils ont un sens dans la couleur de ces ceintures-là. On les apprend quand on est jeune dans les écoles.
Ouais.
Et donc, la couleur des sabres correspond au type d'énergie que possède le Jedi.
Ah oui?
Le Jedi, on lui donne, dès qu'il a 5-6 ans, on lui donne un cristal. On lui donne le cristal qui va être déposé au centre du sabre laser. Je pense que tu vois dans le document que je t'ai remis au numéro 8, la coupe d'un laser est en plein milieu, il est bien marqué cristal,
ouais.
Et tu le vois, qui est à l'intérieur. Ça fait un sabre laser. Le rayon laser, même les rayons laser pour les Blu-ray ou pour les rayons laser, les pointeurs, c'est un cristal qui permet d'avoir une lumière cohérente qu'on appelle parce qu'elle ne se diffuse pas un large spectre. Elle reste dans un fil, une ligne droite, rectiligne, parfaite.
Ouais.
Et donc, le laser, c'est un cristal que le Jedi a tenu dans ses mains au cours d'initiation, au cours d'épreuves, au cours d'exercices de concentration, au cours de toute son enfance, jusqu'à temps qu'il atteigne l'âge de 15-16 ans. Et là, on va placer le cristal dans un mécanisme qu'on va appeler le manche là, du sabre au laser. Il va l'utiliser énormément dans le temps où il agit sur sa sexualité.
Ah.
On n'y échappe pas. La sexualité, c'est le cœur même de l'énergie de l'être. Souvent, qu'est-ce qui te stimule à agir et à faire des choses, c'est la sexualité. Tu veux plaire à ta blonde, tu veux lui prouver tes capacités, tu veux... Et c'est pourquoi c'est finalement, pour un jour, un moment, vivre le moment orgasmique de bonheur, d'union totale. Ben, la sexualité est connue en Orient. Le tantrisme enseigne le contrôle de la sexualité plutôt que ce soit la génitalité strictement pour la procréation ou pour la jouissance toute simple. Les animaux, c'est simple, c'est comme ça qu'ils vivent. Mais quand tu arrives à un autre niveau, un peu comme on dit l'appétit sexuel, ben on peut parler de l'appétit comme l'appétit pour manger. Quand l'appétit va, tout va, disait Obélix. Hein?
Oui, bien sûr.
Bon, ben alors quand l'appétit sexuel va, tout va. Mais on peut apprendre non seulement à manger de manière comme ça très rapidement, on peut le faire, hein, la sexualité, on peut la faire très rapidement, sauf qu'on peut aussi faire l'art culinaire. Encore, on parle d'art, là, de l'art culinaire, et là, c'est de monter la sexualité de la génitalité à un niveau plus haut. Et c'est ça que le Jedi va apprendre à faire avec l'énergie sexuelle, qui est la principale énergie dans le corps de l'être humain, qui lui a donné vie, et qui va encore se manifester à la mort. Et tout au cours de sa vie, c'est sa sexualité qu'il va contrôler et diriger, et qui va lui servir à diriger une puissance précise qu'on va appeler les fameux pouvoirs psioniques. Et dans les pouvoirs psioniques, je les répète rapidement pour montrer quels sont les pouvoirs que les Jedi ont, clairsentience. Clairsentience, ça veut dire avoir une conscience à 360 degrés de tout ce qui peut se produire autour de toi, au-dessus, en dessous, autour, en avant, en arrière, à gauche, à droite de toi. Tu es parfaitement conscient, mais en permanence. Et tant qu'autour de toi, l'énergie de la force est en harmonie, il n'y a pas d'alarme. Mais dès qu'il y a une désharmonie autour de toi, pour quelque raison que ce soit, qu'il y a un être vivant qui souffre, qu'il y a une plante qui t'envoie un signal ou un animal domestique qui t'envoie un signal, tu es averti, tu es attentif, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la clairsentience qu'on développe chez le Jedi. Okay. La psychokinésie, c'est mouvement par l'esprit, déplacer des objets par la force de la pensée. On le voit dans certains épisodes de Star Wars où le type il est blessé, puis il va attirer par la force le sabre laser, le manche arrive dans sa main, puis il allume le laser. Alors, psychokinésie. Le psychométabolisme, ça a à voir avec la température du corps. Être capable de contrôler la température de son corps, soit pour avoir chaud quand il fait froid ou pour refroidir quand il fait extrêmement chaud. La psychotranslation, c'est d'être capable de transformer quelque chose qui existe devant toi soit en l'agrandissant ou en le rapetissant. Ça peut même aller jusqu'à des êtres vivants que tu peux modifier. Mmh. La télépathie, ben ça, tout le monde connaît l'histoire. La télépathie, c'est d'être capable de communiquer par la pensée. On voit que les pouvoirs Jedi, les pouvoirs psioniques que les Jedi développent, vont de l'être vers l'extérieur. Alors que, dans la magie, l'école de Poudlard, si on écoute un petit peu les musiques de Harry Potter, c'est très différent. Et oui, on reconnaît la musique. Eh bien, les magiciens, l'école des sorciers, comme Harry Potter, il ne sera jamais un Jedi. Il ne sera jamais un chevalier Jedi. Il va toujours être un magicien. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'artefacts, il a besoin d'objets. Pour agir sur les choses, une baguette magique, un balai volant. Tu sais, quand ils jouent là, Quidditch, là, ils sont sur le balai volant. Il a avec lui un animal fétiche qui est un daimon. Ça, ça remonte à l'époque des Grecs. Platon parlait de son daimon. Donc, on voit que le magicien agit en fonction d'un futur. Il va préparer des potions magiques. Il va agir avec une intention qui va se projeter dans le futur. Ce n'est pas comme le Jedi qui, lui, agit dans l'instantanéité. Un grand spécialiste que tu as chez toi souvent, Bob, c'est Vincent Lauvergne. Il va nous parler de magie. La magie opérationnelle, c'est un maître dans le domaine. Et si vous allez faire un petit tour à la forêt de Brocéliande...
Oui, bien sûr. On va y aller fin mars, normalement.
Oui, bon, après que l'hiver sera passé.
Oui.
Alors, tu te rapproches des chevaliers de la table ronde là, avec Merlin qui était dans ces coins-là, lui-là. Là. Ouais. Ben, alors Vincent, moi, j'ai très hâte de reprendre contact avec, parce que dans la démarche du Jedi, il y a une approche par la magie, parce que dans la magie, l'âme agit. L'âme agit. Ben oui. Et donc, aussi, le magicien, par contre, il est l'objet. Ouais. Tu sais, si tu possèdes un objet, tu es possédé aussi par l'objet. Alors que le Jedi, lui, il a le pouvoir total en lui. Il n'a pas besoin d'artefact et il agit sur l'instantanéité. Alors que le magicien agit sur projection à distance, soit dans le temps ou dans l'espace. Le Jedi agit là où il est, avec ce qui est autour de lui, et dans le moment, même pas dans le moment présent, dans l'instantanéité du moment présent. Tu peux pas lui demander à un Jedi comment il va réagir devant telle personne, d'avance, il sait pas. Il va dire, attends que je sois devant, je le saurai, rendu là. Et rendu là, il peut être très préparé à affronter un ennemi, et à la fraction de seconde, il voit dans le regard de l'autre un regard qui lui envoie le message que l'autre a peur. Et si l'autre a peur, il n'y a pas besoin de l'affronter, pas besoin de le menacer, c'est fait, il va gagner. Alors, on se rend compte que donc, il y a une différence entre la magie, l'école des sorciers, et l'école des chevaliers Jedi. Dans l'image numéro 9, tu vois la baguette magique et Vincent Lauvergne, avec qui j'ai eu un vidéo Skype il y a quelque temps, je lui dis, regarde, moi j'ai mon bâton de magicien aussi avec ma baguette magique. Ah ben, il dit, attends une minute, il part, il quitte la caméra, il revient devant la caméra avec son bâton puis son cristal au bout de son bâton lui aussi. Ouais. La phrase clé, celle que tu t'attends bien d'entendre à la toute fin quand on parle de Star Wars, que la force soit avec toi, Bob.
D'accord. Bah, écoute, en tout cas, Richard, mille fois merci d'être venu nous parler de cette école Jedi. J'imagine qu'en 10 ans, tu en as vu passer du monde, de tous les âges, et tu as permis à certains... de trouver la force. Parce que c'est ça, hein, le plus que la force soit avec toi.
Tu sais que et l'œuvre d'art, quand je disais l'artiste, l'œuvre d'art, c'est le Jedi lui-même qui doit devenir l'œuvre de son travail. Il ne travaille pas sur l'extérieur, il travaille sur lui, finalement. Et ce qui a sauvé Darth Vader, c'est qu'on lui avait mis des prothèses. Hein, de Darth Vader, il est devenu plein de prothèses. Ce qui l'a sauvé, c'est qu'il avait gardé son cœur pour être vivant, et c'est son cœur qui l'a sauvé. Alors, restez attentif à votre cœur. C'est ce qui va aussi sauver l'humanité.
Eh bien, c'est sur ces paroles qu'on va se quitter. Merci, mon Richard. On va se retrouver dans un mois. Tu nous prépares quoi?
La méta-ufologie, mon cher. Le vendredi dernier, à votre dernière émission de la semaine, la rédac et vous, là, Vous avez passé une heure à discuter entre toi et tes collaborateurs sur le sens de l'ufologie, les extraterrestres. On s'y perd. J'essaierai de mettre de l'ordre, bien que je n'ai pas, moi, je ne prétends pas avoir la vérité, mais après 40 ans d'émission, de rencontres avec des ufologues, des contactés, on va parler de méta-ufologie le mois prochain.
Bah, génial. Rendez-vous est pris. L'émission, bien sûr, est écoutable à la fois sur BTLV et aussi sur le site Ésotérisme Expérimental. Merci mille fois. On t'embrasse et embrasse tout le monde.
Merci Bob. Et salutations à toute l'équipe et à tout ton public.
Et on signale qu'on va mettre très prochainement en ligne les premières réservations, car au mois de mai, nous serons à Montréal, au Québec, pour faire une semaine d'émission. On aura l'occasion d'en reparler. À très bientôt, Mon Richard.
Oui, on lance le tout en janvier, en 2015.
Voilà. Exactement.
Oui, bravo. Bisous. Merci. Un grand plaisir encore une fois avec toi et avec toute l'équipe. Au plaisir.